On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons notre propos sur le goulag et voyons aujourd'hui l'importance de la vie de l'esprit, pas seulement de la vie intérieure, pas de la vie intellectuelle, mais d'une vie intérieure pour supporter les épreuves et l'injustice du goulag. Nécessité pour rester intègre, non pas peut-être pour rester en vie, mais ça c'est un autre problème, mais au moins rester intègre. Sans vie intérieure, immanquablement dans le goulag, eh bien on dépérissait intérieurement et même physiquement. Un exemple de Lev Fink, un jeune de 21 ans qui a été arrêté pour, toujours à l'article 58, activité terroriste, bien sûr c'était un prétexte, 17 ans de prison. Voici son témoignage plus tard. Après une rude journée de travail, nous nous retrouvions autour d'un poêle en fer et nous philosophions sur la vérité et le mensonge, l'optimisme authentique et le faux, sur la poésie, sur l'avenir. Nous oublions, ou plutôt nous essayons d'oublier l'amertume de la séparation, les années perdues, le désagrément de la vie quotidienne. Nous avions ou tentions d'avoir une vie pleine, une vie spirituelle. Et c'est grâce à cela que nous conservions notre identité. J'en ai vu plus d'un se laisser aller aux soucis quotidiens et se perdre progressivement dans des riens jusqu'à la dégradation, sous une apparence de normalité jusqu'à l'appauvrissement intérieur. Ne pas se laisser bouffer par des riens. On est capable bien sûr, quand il y a des choses importantes, on prend le temps, il faut être soucieux, il faut être prudent, évidemment. Mais il ne faut pas être, c'est la parabole de notre Seigneur, hein, attention, la graine, elle se fait bouffer ensuite par les soucis quotidiens. Et on ne voit plus les choses dans leur réalité, donc c'est-à-dire avec la hiérarchie des nécessités. Pamen, apprenez à ne pas se noyer dans les difficultés, à ne pas exagérer les problèmes du quotidien, à mesurer un homme selon l'intensité de sa vie intérieure, selon sa capacité à sortir de sa coquille, à se souvenir de ses devoirs envers autrui. C'est très beau ça, cette remarque aussi. Qu'est-ce que c'est un homme? C'est d'abord quelqu'un qui a une vie intérieure, c'est-à-dire qui n'a pas pensé qu'à lui. Même si bien sûr on doit penser aussi à nous, évidemment. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut être en bonne santé pour pouvoir ensuite aider les autres, évidemment. Mais cette capacité de se souvenir de ses devoirs envers autrui, c'est ça qui va démarquer l'homme intérieur de l'homme charnel. Tarakchevitch, homme simple et sans malice, raconte que beaucoup de détenus étaient prêts à ramper pour une ration ou une pincée de tabac. Mais il ajoute, « Moi j'étais à l'agonie, mais mon âme est restée pure, car j'ai toujours appelé un chat un chat. » Là encore, ce qui va nous sauver dans notre intégrité morale, psychique, c'est de rester en contact avec la vérité. Un chat, c'est un chat. Une injustice, c'est une injustice. Une injustice inférieure n'empêche pas d'obtenir un bien supérieur, etc. etc. C'est cette vie intérieure, c'est cette contemplation des vérités éternelles, de la vérité tout court, qui nous permet de garder notre identité et notre intégrité. Même si on souffre, ça n'empêche pas de souffrir, malheureusement. Et voilà pourquoi l'Église nous invite à vivre dans l'oraison. L'oraison, la contemplation des vérités éternelles, et même des vérités tout court, qui peuvent nous rapprocher de Dieu, même si elles n'ont pas la même profondeur que les vérités surnaturelles. Il faut prendre du temps. Est-ce que vraiment nous avons une vie intérieure? C'est ça la question. Est-ce que vraiment nous avons une vie intérieure où nous sommes capables de, Notre esprit se détache des contingences pour contempler la vérité, la réalité, pour se nourrir de la vérité. C'est ça la vie intérieure. C'est ça la vie de raison. Alors ça peut être bien sûr en contemplant les mystères du Christ, mais aussi parfois des vérités de la création et la vérité naturelle. Et voilà un petit miracle que Dieu va faire pour un homme qui contemplait les réalités naturelles. Vous allez voir, c'est tout à fait extraordinaire. Monsieur, donc, il s'appelait Kodzireff. Il avait une brillante carrière d'astrophysicien. Elle a été brisée par l'arrestation, puis le goulag. Et il ne dut son salut qu'aux méditations sur l'éternel et l'infini, sur l'ordre universel et l'être suprême qui anime toutes choses, les étoiles aussi et leur composition, la nature de la marche du temps. Il découvrit aussi un domaine nouveau de la physique, ce qui lui permit de survivre à la prison de Dmitrov. Dans ses réflexions, il buta sur des chiffres qu'il avait oubliés. Et comment les trouver dans une cellule éclairée à une lampe de pétrole où jamais un oiseau ne peut entrer. Et le savant eut cette prière instante. « Seigneur, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Aidez-moi. Maintenant, c'est à toi de m'aider. » Il avait le droit alors à un seul livre tous les 10 jours dans sa prison. La bibliothèque de la prison était bien sûr bien pauvre. Mais une demi-heure après sa prière, vient le passage où on changeait les livres, l'échange des livres. Et comme d'habitude, sans rien lui demander, on lui jeta un livre. On échange comme ça, obligé. Et quel était le livre? Un livre d'astrophysique. D'où pouvait-il venir? Il était inimaginable qu'un tel livre pût se trouver dans la bibliothèque. Pressentant que la rencontre serait brève, Kodzireff se jeta sur le livre et se mit à emmagasiner dans sa mémoire tout ce dont il avait besoin dans l'immédiat et puis tout ce dont il aurait besoin plus tard. 2 jours s'écoulèrent, une visite du directeur de prison, et avec son œil perçant, il vit le livre et il le lui confisqua. Mais la venue surnaturelle du livre avait déblayé la voie de son travail et Kodzireff put le poursuivre jusqu'au camp de Norlisk. Comme quoi le bon Dieu a fait un miracle, un petit miracle, pour que cet homme puisse continuer à réfléchir, à contempler. Alors bien sûr, on n'est pas tous astrophysiciens, hein. Il y en a beaucoup qui ne va pas les nourrir beaucoup. Mais la moindre réalité naturelle, et les paysans avaient ça avant, quand il y avait la foi, une feuille, un arbre, la structure, le soleil, enfin les cycles des saisons, et tout ça, si on y réfléchit bien, avec un œil de piété, ça nous rattache à l'essentiel. Un autre exemple, là encore assez exceptionnel. Au camp de Samarka, un groupe d'intellectuels était acculé aux frontières même de la mort. Ils étaient harassés par la faim, le froid, le travail surhumain, privés de sommeil, puisqu'il y a faute de place pour dormir. Alors, est-ce qu'ils allaient commettre des vols, dénoncer, pleurnicher sur leur vie perdue? Non. Ils savent que la mort est toute proche. C'est une question de jours et non pas de semaines. Et voici comment ils vont passer leur dernier instant de loisirs nocturnes. Timofiev forme avec eux un séminaire et ils se hâtent de se communiquer les uns les autres ce que chacun est le seul à savoir, donc leur spécialité. Et ils se font mutuellement leur dernière conférence. Le père Sabellius leur parle de la mort sans reproche. Un prêtre diplômé de l'Académie de patristique. Un autre prêtre, Umiat, évoque les dogmes et les canons. Un spécialiste des principes énergétiques de l'avenir. Un économiste de Leningrad explique pourquoi on n'a pas réussi à jeter les bases d'une économie soviétique. Quant à Timofiev, il les entretient sur les principes de la microphysique. Et d'un séminaire à l'autre, les participants manqueront pour prendre place à la morgue. Et là encore, c'est que ça, bien sûr qu'on n'est pas tous des savants, mais il y a toujours une sagesse à entendre quelqu'un parler de ce qu'il connaît. Il y a toujours une sagesse. Il y a toujours quelque chose un artisan qui va vous expliquer le domaine qu'il connaît bien, c'est toujours très enrichissant. Et ainsi de suite. Du domaine que l'on connaît, hein, c'est pas du bavardage. Pour tenir, bien sûr, il ne faut pas seulement cette vie intellectuelle, cette vie intérieure. Enfin, cette vie intérieure est fondée sur la conscience en paix. La plupart des 58 n'avaient pas de crime sur la conscience, on l'avait vu, c'était des prisonniers politiques. Et ce sentiment de quasi-général, l'isogénitisme de notre innocence, nous différenciait des bagnards de l'époque des tsars. Ceux-là étaient coupés du monde en raison de leurs crimes. Eux, en raison, tandis que les politiques, en raison d'une injustice. N'ayant pas de faute personnelle, nous étions conscients, dit-il, qu'il y avait une calamité qui s'était abattue sur notre peuple. Et là, n'est-ce pas, dit Sojenitsyn, la raison étonnante du nombre si peu grand de suicides dans les camps. Ils étaient bien rares. Bien sûr, chaque détenu peut s'en souvenir d'un cas, mais les suicides étaient bien plus rares que les évasions. Les évasions étaient bien plus nombreuses que les suicides. Et je crois même volontiers, dit Solzhenitsyn, que statistiquement parlant, sur 1000 habitants, le nombre de suicides dans les camps était moins que dans la vie normale. Je n'ai pas de preuve, mais c'est son sentiment. Et ceci manifeste bien qu'il y avait une innocence, une innocence peut-être pas par rapport à Dieu, mais une innocence par rapport aux crimes dans lesquels ils étaient. Si des millions, dit-il, de créatures pitoyables, sans défense, ne se suicidaient pas, c'est qu'un sentiment invincible les habitait, une pensée à toute épreuve. Ils avaient conscience de leur bonne foi, ils avaient le sentiment de traverser une épreuve nationale semblable à celle du joug mongol. Et on sentait bien qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui dépassait là la logique humaine et donc qu'il y avait là en fait une permission divine. Donc un malheur pour lequel on est châtié, un malheur auquel on ne peut pas échapper. Un peu comme ce qui va nous arriver dans quelques temps, qui commence à nous arriver. On est vraiment de plus en plus, hein, il n'y a plus de liberté de circulation, vous voyez à quoi je fais allusion. Devant la mort et l'extrémité du coffret, le goulag, comme situation, eh bien donc l'âme va se révéler, cette situation-là extrême va révéler l'âme à elle-même. Et vous souvenez, on avait vu que la logique du goulag, enfin l'adage premier du goulag, c'était qu'il fallait survivre à tout prix, même en écrasant les autres, même au prix de l'injustice. Et bien sûr, pour survivre au goulag intègrement, ben, il faut mépriser ce principe, il faut y renoncer à ce faux principe. Celui qui a fait ce serment, hein, vivre à tout prix, survivre à tout prix, celui qui a fait ce serment a placé son malheur au-dessus du bien commun. Et il faut le comprendre ça. Hein. Si moi je dois survivre, malgré l'injustice que je vais faire souffrir aux autres, ça veut dire que je me mets au-dessus des autres, à un niveau transcendant. Je ne suis pas un homme comme les autres. Donc ça, c'est un péché d'orgueil, d'abord, avant d'être un péché d'injustice. Je mets mon malheur au-dessus du bien commun, au-dessus de l'univers entier. Donc comment je vais réagir par rapport à cet adage qui m'est proposé? Ça va être, dit-il, la bifurcation de la vie. De là partent deux routes, l'une à droite, et l'une à gauche. La première s'élève peu à peu, et la seconde rampe et descend. À droite, tu perds ta vie, à gauche, tu perds ta conscience. Voilà, c'est la difficulté qu'existe depuis que le monde est monde et que l'homme a péché. Hein. Il y a des moments où on doit faire un choix. Je vais ou se voir souffrir, ou perdre ma vie, mais je garde ma conscience. Ou alors j'accepte de perdre ma conscience, et je survis. Et je continue à vivre. Cet ordre que l'on se donne, tenir, jaillit bien sûr spontanément de tout être vivant. Qui ne veut pas survivre? C'est un instinct, on a l'instinct de survie, c'est normal ça. Le mal n'est pas de vouloir vivre, tenir, survivre, ça c'est normal, c'est instinctif. Qui n'a pas le droit de survivre? Mais tenir ne signifie pas à tout prix, le problème est dans le « à tout prix ». C'est cet « à tout prix », ça veut dire « au prix d'autrui ». Au prix des autres. Reconnaissons la vérité, à cette grande bifurcation des camps qui départagent les âmes, ce n'est pas le plus grand nombre qui tourne à droite. Hélas, non. Mais par bonheur, il ne s'agit pas non plus de quelques exceptions. Ils sont beaucoup à avoir fait ce choix. Ils ne le claironnent pas, et des dizaines de fois, ils ont dû affronter ce choix. Ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient, ce qui leur en coûterait. Donc là encore, l'expérience de Célestine manifeste l'adage évangélique où la porte est étroite pour aller au royaume des cieux et que sont peu nombreux ceux qui la prennent. La masse, le plus grand nombre, choisit la voie spacieuse, large, qui conduit à la perdition. Et dernière remarque avant de conclure, il faut bien comprendre que c'est cette logique matérialiste qui engendre cet adage faux et criminel. L'adage faux criminel, c'est celui de je peux vivre à tout prix. Je suis mon Dieu et donc je fais ce que je veux pour survivre. Ça, c'est faux. Et qu'est-ce qui a enclenché ce faux principe? C'est une fausse doctrine. C'est la doctrine matérialiste qui, il va l'expliquer, qui peut se résumer par, et on l'entend encore de nombreuses fois, c'est le résultat qui compte. Ce qui est important, c'est le résultat. Peu importe le chemin que j'ai pris. Ça, on l'entend, et ce n'est pas seulement la Russie communiste qui l'a enseigné. Ça fait partie de la doctrine matérialiste. Et elle est très perverse. Cette phrase, « il n'y a que le résultat qui compte », n'est pas une plaisanterie, mais c'est une pensée, un poison contagieux. Il y a longtemps qu'elle a été inoculée à notre conscience nationale, mais on continue de nous l'inoculer. Des millions de nos contemporains pensent que l'homme n'agit que par cupidité. Regardez aussi, on a ça pas seulement en Russie, mais aux Amériques, dans le système judiciaire, tout crime, peut, une fois que c'est payé, peut être réparé. C'est une question d'argent. Non, ça, c'est pas si simple que ça. C'est le résultat qui compte, c'est ce que je paye qui va effacer. C'est le même principe matérialiste. D'où cela nous est-il venu? Du socialisme et de cette doctrine moderne qui prétend qu'il n'y a que le résultat qui compte. Ce qui compte, c'est de bâtir à la hâte un parti combatif, de prendre le pouvoir, de le garder, d'écarter ses ennemis, de triompher dans les domaines de la fonte et de l'acier, de lancer des fusées, bref, tout aujourd'hui, la compétition des États, le résultat qui compte. Mais qu'il a été nécessaire pour ces industries et ces fusées de sacrifier notre mode de vie, l'unité de notre famille, l'intégrité de l'esprit national, l'âme même de nos plaines, de nos forêts, de nos rivières, eh bien on s'en balance. Il n'y a que le résultat qui compte. Or, c'est faux. Et remarquez bien, toutes nos sociétés modernes, toute notre société technocratique, industrielle, il y a des industries à échelle humaine qui sont nécessaires, qui sont bonnes. Mais la logique industrielle dans laquelle nous sommes, c'est du matérialisme. Et ça a détruit nos familles, ça a détruit nos valeurs, ça a détruit la spiritualité, ça a détruit nos paysages. Parce qu'on voulait, par orgueil, l'homme a voulu un résultat, à tout prix. C'est le résultat qui compte. Il a voulu s'installer dans une puissance et un confort. Notre monde est fondé sur un principe destructeur. Et aujourd'hui, on en touche le doigt. On le touche du doigt. Parce qu'il est fondé sur une doctrine matérialiste. Il ne peut que engendrer le malheur des hommes. Ben pourquoi les gens dans des banlieues, dans l'industrie, dans un paysage chaotique, ne sont pas heureux? Et ils cherchent la verdure. Et ça encore, c'est l'aspect le plus touristique, le plus visible. Ça a détruit. Nos familles sont explosées par cette explosion du progrès. Il y a un fils ici, un enfant là, on ne se voit jamais, puis après on prend la voiture à fond, puis c'est un week-end de fou. C'est comme ça, je veux dire, ça peut se faire, ça s'est fait, et ça doit se faire, c'est un des seuls contacts qu'on a. Mais ça, c'est quoi? C'est le produit d'une logique une logique de vie qui a été imposée par ce principe matérialiste. Nous avons trimé de nombreuses années au bagne qui couvre toute l'Union soviétique. Et lentement, dit-il, au fil des années, nous nous sommes élevés jusqu'à la compréhension de la vie. Et de cette hauteur, nous l'avons nettement perçue. Le résultat ne compte guère. Ce qui compte, c'est l'esprit. Non pas ce qui a été fait, donc le résultat, mais ce que l'on a fait. Pardon. Non pas ce qui a été fait, mais ce que l'on a fait, c'est-à-dire non pas ce qui a été atteint, mais le prix que l'on y a mis. S'il n'y a que le résultat qui compte, alors nous autres détenus, Pour nous, l'axiome « survivre à tout prix » est vrai et ne ment pas. Donc ce qui compte, et aux yeux de Dieu, on le voit bien, et parfois nos vies peuvent être décevantes parce qu'on n'arrive pas, bien sûr, on aimerait tous que nos projets se réalisent, toutes nos idées, mais le bon Dieu et les circonstances, et où la malice des hommes ne permet pas. Bon. Mais ce n'est pas ça qui compte. À la fin de la vie, ce n'est pas ça qui comptera. Il ne faut pas chercher le résultat à tout prix. Ce qui est important à mes yeux, et aux yeux des gens intelligents, et aux yeux de Dieu surtout, c'est le prix, le prix qu'on y a mis. C'est la manière dont on a fait les choses. La manière dont on a fait les choses. Et on le voit bien, prenez un écolier, on le sait bien, un écolier qui n'est pas doué, il aura 6 sur 20. Et la note n'est pas bonne. Mais il a travaillé 3 heures, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et bien, peut-être qu'aux yeux de Dieu, cet écolier qui n'a que 6 sur 20 est bien plus courageux et bien plus à récompenser que cet enfant doué qui, lui, en 10 minutes, sans effort, fait son travail. En plus, bâclé, il a 18 sur 20. On le comprend, cet exemple-là. Mais on l'oublie quand c'est notre propre vie. Ce n'est pas le résultat qui compte. C'est la manière, c'est ce qu'on y fait, c'est ce qu'on y met, et c'est la pureté qu'on y met. Donc, s'il y a, vous voyez, la doctrine matérialiste va engendrer ce principe cruel. S'il n'y a que le résultat qui compte, alors, à tout prix, je dois vivre et obtenir, et je peux faire tout ce que je veux pour obtenir ce que j'ai projeté. Alors, dans l'exemple du goulag, ça veut dire moucharder, trahir ses camarades, obtenir en récompense une planque. Voilà, une remise de peine. À la lumière de cette doctrine matérialiste, il n'y a là aucun mal. Agissons ainsi et le combat sera à notre avantage, puisque aussi bien il n'y a que le résultat qui compte. Sans conteste, il est certainement agréable de maîtriser le résultat. Tous, on aimerait bien qu'on a un projet, on l'a enclenché, bon, c'est la satisfaction humaine que ce projet aboutisse. Donc ça, c'est pas un péché, c'est normal. Mais attention, le projet doit aboutir, mais pas au risque de perdre toute figure humaine. Pas au point de perdre toute figure humaine, pas au point de perdre ma conscience, pas au point d'être injuste. S'il n'y a que le résultat qui compte, alors en effet, il faut survivre à tout prix. Mais si c'est le fond des choses qui compte, alors il faut être prêt à mourir, c'est-à-dire prêt à échouer. Prêt à échouer. On le voit ça dans une vie d'un saint empereur hein, qui a perdu certaines guerres, mais parce qu'il n'était pas prêt à la gagner à tout prix. Ça peut aller jusque-là, oui. Bon, c'est un contexte un peu particulier. Et dès lors, eh bien, tu auras, si on en est là, c'est-à-dire si on a compris que c'était la manière dont je fais les choses qui compte et non pas le résultat, alors tu auras cessé de craindre les menaces. Parce qu'on est prêt à périr, on est prêt à perdre sa vie, mais pas sa conscience. À ce moment-là, on est prêt à... Les menaces ne font plus rien. On ne recherche plus les récompenses, comme les gens ambitieux. Mais tu seras alors, aux yeux de tes maîtres, l'élément le plus dangereux. Il y a vraiment un contre-révolutionnaire. Parce qu'ils n'auront plus aucune emprise sur toi. Tu ne crains rien et tu ne recherches rien. À ce moment-là, donc c'est voilà pourquoi ils s'acharnaient sur ceux qui avaient la liberté du Christ, qui était cette liberté-là. Et qu'il nous faut acquérir, même dans notre vie, même sans être au goulag. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous prouvent dans la main qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on
dit, l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, ok, inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.